France Culture, Avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
Et si, en France, l'écologie politique était née dans un verre d'eau? Le fameux verre d'eau brandi en 1974 par René Dumont lors d'une de ses allocutions officielles pour la campagne présidentielle. Cette image forte de l'homme au pull rouge et aux longs cheveux blancs marque encore durablement près de 50 ans. Après, par ce geste, au-delà du verre d'eau, en fait, cette candidature improbable à une élection présidentielle, alors qu'aucun parti écologiste n'existait, René Dumont aura donné le coup d'envoi à l'écologie politique 10 ans avant la création d'un premier parti écologiste. C'est ce dont nous parlons pour ce 4e volet de la série « Avoir raison avec René Dumont ». Nous en parlons avec la politiste Vanessa Jérôme qui est en ligne avec nous depuis la côte ouest du Canada. Vanessa Jérôme est chercheuse associée à l'Université Victoria et professeure associée à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Et puis également avec nous, mais en studio cette fois, Alain Lipietz qui est ingénieur économiste qui a été député européen Europe Écologie Les Verts pendant 2 mandats et qui a eu l'occasion de rencontrer René Dumont bien avant même cette candidature de 1974 sur laquelle nous revenons tout de suite.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Eh bien voilà, nous sommes le lundi suivant, annoncé par René Dumont. Et voilà ce programme en question dans une autre allocution officielle de la campagne présidentielle.
Eh bien, notre société est une société de domination, est une société de profit, est une société de pillage du tiers-monde, est une société de gaspillage des ressources rares de la planète, d'oppression, de pollution invraisemblable. Et cette société, nous le savons maintenant, nous conduit assez vite à la mort. Si nous continuons sur la même lancée, alors il faut tout de même en sortir vite. Il nous faut donc élaborer de nouvelles orientations, une structure politique, une structure économique différente. Mais cette tâche, ce n'est pas à nous de l'accomplir entièrement. Nous allons faire de grands projets, de grandes lignes, soumis à l'appréciation de tous les Français, de toutes les Françaises. Il ne s'agit pas d'arrêter le progrès, il s'agit d'en changer complètement l'orientation. Parce que le progrès, dans sa conception actuelle, je vais vous montrer ce que c'est que le progrès et ses résultats. Tenez, regardez ces photographies, regardez cette ville. Cette ville, ce n'est pas Osaka au Japon, ce n'est pas Düsseldorf en Allemagne, c'est Paris. Et regardez ces fumées. Un peu plus loin, dans la banlieue, vous allez voir une autre photographie. Là, cette fois-ci, c'est une immense cheminée d'usine qui couronne d'un panache de fumée un immeuble d'habitation. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un filtre sur cette cheminée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre l'usine un peu plus loin du lieu d'habitation? Alors, voyez-vous, c'est cela que nous voulons empêcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait récemment dans cette voie? Tenez, prenez le journal du 25 avril. Le Conseil des ministres a décidé l'implantation de 14 appareils de détection de la pollution dans les rues de Paris pour sonner l'alarme. Bon, on va mesurer la pollution. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu empêcher la pollution? Est-ce que nous ne devons pas repenser tous ces problèmes?
Voilà donc ce programme écologiste de l'an zéro, pourrait-on dire, Alain Lipietz. Comment vous entendez ce discours aujourd'hui?
Alors, il y a à la fois le caractère extraordinairement prophétique, hein, par exemple le verre d'eau, ben, si vous lisez la presse de cette semaine, le Télérama, au Monde ou ailleurs, la question de l'eau vient comme, en quelque sorte, le nouveau symbole. Hein, il y a quelques jours, on parlait également du pic de chaleur du 4 juillet. Et en général, c'était associé à l'ours blanc sur sa banquise qui fondait. Maintenant, c'est de plus en plus l'eau. Pourquoi l'eau? Bah parce que, alors évidemment, plus il va faire chaud, plus il va pleuvoir. Mais c'est une eau qui sera de moins en moins utilisable, exactement comme dans le nord-est brésilien, où vous avez tantôt des sécheresses, tantôt des inondations ravageuses. C'est ça qui va se généraliser. Et donc ça, c'est le caractère prophétique. Deuxièmement, ce qui me frappe, c'est, alors là, c'est vraiment du Dumont, hein. S'il y a des fumées, il faut mettre des filtres. C'est-à-dire que, et en même temps, il fait une campagne politique. C'est-à-dire qu'il ne sépare jamais la technique du politique. Ça, c'est très... Un jour, j'ai fait un article qui s'appelle « René Dumont, ingénieur et prophète ». C'est-à-dire que c'est l'homme qui est ingénieur, fondamentalement. Si on trouve une solution technique, tant mieux. Si on voit que derrière la non-mise en place de la solution technique, il y a un problème sociologique et politique, alors on fait la révolution. Mais on ne fait pas la révolution pour le plaisir. Si on peut trouver une solution technique, tant mieux. Et ça, c'est une démarche qui, pour les jeunes de 68... Hein, bon, la première fois que je l'ai connu, c'était en 66. Hein, je l'avais invité dans ma grande école. Il y avait toutes les deux promotions réunies.
À Polytechnique.
À Polytechnique, oui. Et 66, hein. Il était connu que pour l'Afrique noire est mal partie. J'y reviendrai, mais...
Mais c'était trois ans avant,
oui. C'était trois ans, oui. Et ce qui était... Bon, les ingénieurs, c'était vraiment le gars qu'il nous fallait. Hein, on était à la fois idéalistes, on était... Bon, on était jeunes, tout simplement. Et en fait, c'est un type qui nous disait, à partir de vos connaissances et de votre professionnalité, vous pouvez aider, mais sachez que la technique ne résoudra pas tout. Il faudra faire aussi des transformations sociales et politiques.
Vanessa Jérôme, comment vous l'entendez, vous, cette esquisse de programme écologiste de l'époque ?
Ben, ma foi, comme un premier début, parce que la candidature de René Dumont, elle est évidemment, elle est emblématique, et puis elle est fondatrice de ce que sera l'écologie politique en France, aussi bien dans ses propositions que dans son positionnement. René Dumont, c'est aussi une figure qui est contestée, hein, malgré tout. On parle maintenant beaucoup de cette candidature, justement, dans son côté fondateur, c'est le début, dit-on, de la politisation de l'écologie et de l'écologisation de la politique. En réalité, il ne faut pas oublier que, même s'il est reconstruit maintenant, réapproprié, ce moment, quand il arrive en 1974, il n'est pas si simple, parce que la candidature de René Dumont, bien d'abord, ce n'est pas une évidence. Il n'y a pas de formation écologiste, hein, à l'époque, de formation politique en 74, puisque les formations sont assez solubles. Il y a eu une candidature législative en 73, mais il n'y a pas de candidature au sens partisan du terme. Donc, c'est pas une évidence, cette candidature. C'est pas une facilité non plus, parce qu'en réalité, c'est un peu une candidature par défaut, je vais le dire un petit peu comme ça. C'est une candidature qui fait suite en réalité à plein de défections ou de tergiversations personnelles. Il y avait Charles Piaget, hein, qui était le leader des LIP, qui était une lutte importante à gauche à ce moment-là, qui avait été pressenti pour se présenter justement pour fédérer un peu les écologistes et puis l'extrême-gauche. Il y avait Edmond Maire pour la CFDT, Michel Rocard pour le PSU, qui n'était pas pour cette candidature de René Dumont. Ils étaient évidemment engagés pour François Mitterrand dès le premier tour. Jean Carlier, qui est une figure aussi importante, parce que cette candidature, on ne le dit pas assez souvent, est une candidature qui a été portée médiatiquement par l'Association des écrivains et des journalistes pour la protection de la nature et l'environnement, qui était finalement presque à l'initiative de ce petit raout. Jean Carlier ne veut pas risquer son poste à RTL à ce moment-là. Puis il y a plein d'autres candidats qui auraient aussi pu se présenter et puis qui ont renoncé. Hein, Philippe Saint-Marc était un pionnier de l'écologie, mais qui n'était pas complètement en accord avec l'idée de sa partisanisation, hein, de sa mise en parti politique. Il y a Théodore Monod, qui est handicapé par son âge, puisqu'il a 72 ans à ce moment-là. Le commandant Cousteau, dont on reparlera à d'autres moments, qui hésite, lui, à entamer sa notoriété. Un scientifique qui passe en politique, c'est toujours compliqué. Il y a Charles Lorient aussi, qui est un militant écologiste, qui manque, lui, pour le coup, de notoriété. Bref, René Dumont, il est intronisé. Voilà, sa candidature est portée par un collectif qui n'est pas si énorme que ça à l'époque d'ailleurs, mais elle n'a rien d'une évidence. Et je trouve que c'est intéressant de le souligner parce que, avec la profondeur maintenant du passé, on en fait cet acte fondateur vraiment très emblématique, alors qu'elle n'était pas du tout donnée à l'avance.
Alain Lipietz, vous souvenez de ce moment, de la façon dont les choses se sont engagées? Il y a l'année d'avant, il y a la publication de son best-seller, L'Utopie ou la mort, qui rend très visible et qui doit jouer un rôle dans le fait qu'on aille le chercher, qu'on lui propose.
Oui, très probablement, hein, le fait qu'il ait fait... C'est son premier livre explicitement écologiste. Hein. L'Afrique noire est mal partie, qui est un titre emblématique aussi, dont on a complètement oublié le texte.
Hein, 1963, donc.
1963, hein, c'est ça qui l'a rendu célèbre d'une certaine façon. Et ça s'appelait pas du tout l'écologie. Ben, rétrospectivement, c'est de l'écologie. Hein. Aujourd'hui, s'il revenait, il écrirait La Charente maritime est mal partie à propos des bassines, je sais pas quoi.
Hein, en fait, c'est juste une question d'anachronisme lexical.
Et,
quoi.
Voilà, et c'est le premier... Alors, bon... C'est pas le premier. Hein. Comme toujours, en France, on est un petit peu en retard sur le reste du monde en matière d'écologie. Je vous rappelle que l'écologie est lancée comme problème, si vous voulez, par la conférence de Stockholm, hein, 1972, hein, qui est une conférence de l'ONU, qui lance le thème de l'éco-développement, etc., etc. Avant, il y a le rapport Meadows. Hein,
Et Dumont était assez proche de ces institutions onusiennes.
Bien sûr, Dumont, c'est un onusien. Hein, c'est quelqu'un qui passe sa vie sur le terrain, financé par la Banque mondiale, pour aider des pays en développement à sortir de leur misère, hein, à sortir de la faim. Hein, c'est ça le personnage Dumont. C'est l'ingénieur que l'ONU paye, enfin l'ONU ou les institutions internationales, paye à aider au développement, à poser un diagnostic et donner des conseils. Bon, ces savants ont une certaine avance sur l'opinion publique, et en particulier, ils en ont un peu plus d'influence dans les milieux anglo-saxons ou allemands, et vous avez la conférence de Stockholm qui lance l'écologie comme thème. Et lui arrive, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Vanessa Jérôme, hein, comme... D'abord, il y a un accord entre les écologistes pour le choisir lui. Il y avait d'excellentes raisons pour que ce soit lui. Il avait fait cet excellent bouquin de 73. Mais c'est aussi une partie des 68 arts qui, faute de Piaget, sera liée à lui. C'est-à-dire l'idée qu'au premier tour, on choisit...
Donc Piaget, le leader de l'IP,
Piaget,
la lutte
c'était le leader de
l'horlogerie.
Voilà. Donc Piaget représentait bien le l'IP, l'Arzac, tout ça. Hein. Et c'était... et puis le mouvement contre la loi Debré, enfin il y avait tout un mouvement post-68 art de masse, hein, qui ne se reconnaissait pas dans François Mitterrand. Bon, alors François Mitterrand, tentant l'observatoire, sa prise de parti pour l'Algérie, c'était le département français, etc.
Et puis Michel Rocard, qui s'était présenté à la présidentielle précédente en 69, cette fois s'était rallié au nouveau parti socialiste.
Voilà, il s'était rallié, donc beaucoup de PSU, si vous voulez, dont moi par exemple, on était pour Piaget, et c'est mon maire qui dit, mais on n'est pas question, un leader syndical n'est pas forcément un bon président de la République, etc., etc. Donc, les écologistes se mettent d'accord, les écologistes pur sucre, hein, pur porc, comme on dit, ou Larzac, se mettent d'accord sur Piaget, sur René Dumont, pour des raisons qui viennent d'être décrites, hein, et puis, les gauchistes, hein, les post-68ards disent, quelqu'un, bon, on n'était pas écologistes, on était les rouges, hein, et d'une certaine façon, il nous a aidés à passer du rouge au vert. On se dit, bon, on va prendre l'écologiste là qui a l'air bien parce qu'il fait la critique du modèle de développement, il fait la critique du colonialisme, etc. Il est pacifiste, enfin, il y a tous les avantages pour représenter le mouvement post-68ard. Mais bon, on n'était pas nous-mêmes écologistes. Hein. Ma première manifestation écologiste a été en 69, effectivement. Mais c'était pour libérer les bords de l'Erdre, la rivière de Nantes. Hein. Donc on avait des activités écologistes, mais c'était un front secondaire. On critiquait le Larzac typiquement. On défendait le Larzac d'abord parce que c'était beau, certes, mais parce que c'était contre l'armée. Hein. Donc c'était la suite un peu du mouvement contre la loi Debré. Donc on n'avait pas du tout une idéologie unifiée écologiste. Ça n'apparaissait pas comme le paradigme alternatif. Alors est-ce que pour lui ça le représentait déjà ? Je crois que vraiment il passe vraiment lui-même du rouge au vert un peu plus tard. Hein, c'est-à-dire quand il écrit « Adieu les lendemains qui chantent », c'est-à-dire 10 ans après encore. Hein. Donc c'est, pour lui, c'est un mouvement, c'est toujours cette démarche de l'ingénieur qui franchit des étapes politiques, fait des ruptures politiques et idéologiques, au fur et à mesure qu'il s'aperçoit que les solutions techniques qu'il aura poussées jusqu'au bout ne marchent pas. Et pour nous, c'était un peu différent, évidemment. On avait un idéalisme... 68 heures, hein. Alors, autogestionnaire, anticapitaliste, pacifiste, etc. Et puis on nous dit, ah, tout ça, ça s'appelle l'écologie. Ah bon, pourquoi? Et c'est à la faveur de la campagne qu'on se dit, peut-être que c'est par là qu'effectivement il faut aborder les problèmes. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur la question précédente. Les problèmes, alors c'était dans le rapport Meadows, c'était dans la conférence de Stockholm, c'est la planète va épuiser ses ressources. Aujourd'hui, on ne savait plus ça du tout. C'est la pollution qu'il aborde tout à fait dans les dernières minutes de son intervention qui devient majeure. C'est-à-dire des ressources, on en trouvera toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'on va tellement saloper avec les déchets, et notamment l'effet de serre, qui est quand même le déchet le plus fantastique, qu'on n'arrivera plus à survivre.
Mais ça, les ressources, c'est peut-être aussi l'héritage de son obsession pour la question de la faim.
Mais tout à fait, les ressources, exactement, mais totalement, mais c'est altermondiste. Hein. L'arrivée de l'écologie comme question plus de côté des déchets que du côté des ressources est relativement tardive. Il y a un livre extraordinaire du pape. Laudato si, l'encyclique Laudato si. Bon, c'est un pape argentin, je connais à peu près tous les auteurs dont il s'est inspiré, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé en Amérique latine, et il dit je veux lancer une écologie, non pas des ressources, mais des déchets. Et c'est typique des pays en voie de développement industriel, enfin ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà franchi pas mal d'étapes, mais si vous allez au Mali, c'est évident que c'est une écologie des ressources dont on a encore besoin. C'est un peu ça que Rabhi va reprocher à Dumont, par exemple.
Vanessa, Jérôme, revenons sur cette campagne de 74. C'est la 5e République. Hein. Donc, en fait, évidemment, il y a une forme de centralité de cette élection au suffrage universel direct depuis 1965. On est là face à la 3e, lors de la 3e élection de ce type. On a peut-être aussi, certains à gauche peuvent avoir la mémoire de ce premier coup tenté par François Mitterrand, qui a été candidat sans véritablement avoir un parti. C'est-à-dire que ça a précédé aussi la création à Épinay, quelques années plus tard, du Parti Socialiste. On a un peu la même chose avec les Verts, c'est-à-dire qu'il y a une candidature, et en même temps, Dumont, lui, est assez peu préoccupé par la mise en place, derrière cette candidature, d'un véritable parti politique, et il faudra attendre 10 ans pour ça.
Oui, mais ce qui est intéressant justement dans cette candidature, c'est que René Dumont, c'est un converti. Parce que, vous savez, c'est la fameuse « on ne naît pas écologiste, on le devient ». Bien, à l'époque, on naissait encore moins écologiste que maintenant, on ne naît pas complètement écologiste. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment d'idéologie constituée, il y a des morceaux un peu épars, des réflexions. Et René Dumont lui-même est un converti. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer finalement la trajectoire de l'écologie politique, parce que c'est un converti qui finalement accepte de jouer le jeu de la Ve République et de cette candidature présidentielle d'une manière à la fois très momentanée. Il dit d'ailleurs, hein, je suis pas là pour faire des voix, c'est-à-dire quand on regarde un peu les archives.
D'ailleurs, il en fera peu.
Voilà, il en fera peu, hein, ce fameux,
300 000 voix à peu près.
Voilà, c'est-à-dire il marque finalement l'écologie, c'est-à-dire au sens de on est candidat, mais dans une distance, dans une forme de distance très critique vis-à-vis du pouvoir et des institutions de cette 5e République. Il a un rapport expert au pouvoir, moi je dirais, parce que il est conseiller, il rechigne pas à de temps en temps contribuer à faire des rapports, à être évidemment près du pouvoir, sans parler évidemment même du début de sa trajectoire, parce que là, pour le coup, comme ingénieur agronome colonial, il était évidemment en plein dedans, mais voilà, donc il est plutôt conseiller, il prétend pas à des fonctions électives, il fait cette candidature, et puis après, plus rien, si ce n'est que d'être présent dans les luttes, et même cette candidature, elle est à l'image de ce qui est resté finalement, les candidatures écologistes, et c'est bien pour ça que certains les aiment et d'autres les critiquent, c'est-à-dire dans cette forme de distance. D'abord, il a une communication, il a un ton, il dit « on est venu me chercher parce que je parlais bien ». Il parle pas comme un politique, il parle comme un professeur, il a un ton très professoral, il aime donner des leçons, c'est son métier. On va ensuite beaucoup reprocher aux écologistes justement d'être des donneurs de leçons. Il a une communication qui cadre pas du tout avec les manières de faire politique, aussi bien dans son vêtement. Alors le pull rouge est devenu emblématique, mais on parle un petit peu moins de ses siestes avant les interventions, de sa manière de parler avec des formules qui sont des formules de com. Faut pas oublier que c'est une candidature à la fois politique et médiatique. Son entourage, c'est effectivement des gens qu'on va retrouver dans l'écologie politique ensuite, comme Brice Lalonde, qui a été directeur de campagne, Solange Fernex, qui est une femme qui a beaucoup marqué les débuts de cette écologie, Jean-Luc Benamias, Didier Angier, voilà, des gens qu'on va retrouver ensuite en politique, mais c'est aussi beaucoup des journalistes, et pas n'importe lesquels, des journalistes de la formule, de la caricature, de la distance au pouvoir. Donc on parle beaucoup de ce verre d'eau, mais moi je préfère finalement à la voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Voilà, c'est ce genre de formule qui vont devenir fondatrices de la manière dont les Verts ensuite communiqueront, pratiqueront la politique, et finalement des Verts dont il est lui-même très représentatif, parce que quand on regarde la trajectoire de René Dumont, bien finalement c'est celle de beaucoup d'écologistes qui vont suivre. Il a eu son ascension sociale par les titres scolaires, il vient d'une famille qui est déjà éduquée, même s'il aime se dire paysan et qu'il l'a été en partie. Je reviens pas sur l'histoire que vous avez bien très bien faite dans les épisodes précédents sur sa biographie, mais c'est un ascensionniste, c'est un intellectuel, c'est un académique, c'est un quelqu'un qui a été politisé de manière très précoce auprès de cet ancien socialiste Adolphe Gautier qu'il a beaucoup côtoyé. Voilà, donc il va finalement poser les prémices de ce qu'on appelle maintenant l'idéologie verte, mais de manière provocatrice, amusante, drôle. Tout n'est pas sérieux dans cette candidature. Il y a aussi plein de joyeux drilles qui sont là, sachant qu'ils ne feront pas de voix et qu'ils font un pied de nez, finalement, à cette 5e République, à ces institutions, à cette personnalisation du pouvoir. Et finalement, ce style-là de campagne, de rapport au pouvoir, va autant marquer l'écologie politique que les thèmes de fond, là, pour le coup, très sérieux sur la surconsommation, le pillage des ressources des pays du Sud. On peut parler aussi de l'inégale répartition des richesses. C'est un homme social. Typiquement, il est déjà dans l'alliance entre l'écologie et le lien social, la lutte contre les inégalités, les discriminations. C'est un ingénieur, mais qui a un rapport peut-être très pratique au terrain, mais qui est très, très... C'est un penseur aussi. C'est pas un idéologue, mais c'est un penseur. Voilà, donc cette candidature, c'est tout ça pour la suite de l'écologie politique.
C'est tout ça, et en même temps, c'est la disparition de René Dumont comme candidat possible pour la suite. D'habitude, en général, les gens se font élire en France en étant candidat deux fois, trois fois à l'ancienneté. Et lui est pas du tout là-dedans. Donc, à la fois, il initie quelque chose, mais Alain Lipietz, vous allez, avec d'autres, devoir vous débrouiller pour prolonger ce moment fondateur, en fait.
Oui, dans mon cas, l'expérience a été un petit peu dure. Il m'avait écrit, dédicacé un de ses bouquins, Tu reprends le flambeau, et quand j'étais candidat à la présidence de la République, je me suis aperçu que les cotes s'étaient vraiment instituées. Mais, alors, les cotes se sont instituées, mais, comme dit Vanessa Jérôme, il marque une rupture, y compris dans la façon de faire une présidentielle, mais je vous rappelle qu'elle a triomphé récemment. Zelensky, c'est exactement ça. Il fait un film, il fait une série d'émissions comiques sur quelqu'un qui devient président de la République un peu par hasard, et il devient président de la République, et instantanément il se transforme de Coluche en Churchill. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc la candidature de René Dumont, rétrospectivement, peut dire que 50 ans après, on dit bah oui, finalement ça aurait été possible. Et bon. En France, c'est probablement pas possible. C'est ça le problème aussi.
Bon, ça, c'est la forme.
Ça, c'est la forme. Mais je pense que c'est important, la question de la forme. Et je pense que Vanessa Jérôme a tout à fait raison de dire que Il institue, alors, par son passé, bon, et qui commence, bon, dans les émissions précédentes, vous l'avez dit, hein, dès l'enfance, à l'arrière du front de 14-18, donc une horreur de la guerre, et comment survivre, comment les humains peuvent survivre sur la Terre. C'est ça son problème numéro un. Et il le résout techniquement, et s'il n'y arrive pas, on fait de la politique. Voilà, c'est un peu le sujet. Et je pense qu'effectivement, tous ses successeurs, ou tous ceux qu'il rallie à ce moment-là, sont exactement dans la même démarche. Quand je suis rentré ouvert, c'était tout à fait au début, on était 30% d'ingénieurs, informaticiens, etc. 30%. Alors maintenant, il y a certainement beaucoup plus de soignants, par exemple. Hein. Ça, c'est la deuxième composante logique de la formation d'écologie politique, comme mouvement social. Mais je pense que la question... du fait qu'on part d'une professionnalité, d'une certaine façon, pour arriver à l'écologie, ça c'est resté. Ça c'est resté, c'est... alors évidemment, il y a maintenant, puisque pour par l'écologie politique, on peut être élu député, devenir directeur de France de Radio France, etc. Bon, bah maintenant vous avez un tas d'ambitieux qui le font. Mais le gros du mouvement, prenez les maires des grandes villes, hein, qui sont bon, on a conquis, je parle les deux tiers des mégapoles françaises aux dernières élections municipales. Qui c'est? Bah c'est tous des gens qui sont formés intellectuellement. Deuxièmement, qui sont politisés assez jeunes, mais toujours par le mouvement associatif et solidaire. Hein, CD, prenez-les un par un, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, etc. Ce sont des gens c'est les petits René Dumont. C'est les petits René Dumont. Ce sont des gens qui ont une professionnalité, qui vont dans l'associatif pour faire de l'humanitaire ou du solidaire. Et puis, à un moment, ils convainquent la population, contrairement à Dumont, parce que c'était pas possible à l'époque, on ne s'en tirera que tous ensemble et de façon solidaire. Et même dans les grandes villes, qui sont justement peuplées par des gens intellectuels, qui ont fait les études, etc., eh ben, ça marche. Et la difficulté, c'est dans les banlieues populaires, encore que dans les banlieues populaires, on a eu pas mal de succès aussi, quelques-uns arrivent à convaincre que dans les quartiers populaires qui ont éclaté il y a quelques jours, c'est l'écologie qui aurait permis de s'en sortir.
Vous partagez cette analyse, Vanessa Jérôme, d'une importance de la profession d'origine, par rapport à d'autres organisations politiques qui sont devenues davantage des entreprises politiques où la politique est une profession dès le départ?
Alors oui et non. Je dirais à la fois oui, parce que cette trajectoire d'entrée dans l'écologie et d'entrée dans la politique perdure, en effet, mais elle est très largement concurrencée depuis quelques années maintenant, j'aurais tendance à dire fin des années 90, très tranquillement, mais surtout depuis les 10 dernières années, par d'autres formes beaucoup plus classiques d'entrée dans la fonction politique, par le métier, le rôle de collaborateur d'élus. C'est-à-dire là, plus on a d'élus au Parlement européen essentiellement, mais aussi maintenant effectivement dans des communes et des villes importantes de France, plus on a besoin de personnel politique et plus on les forme. Et là, il y a une espèce de conjonction maintenant qui n'était pas du tout présente à l'époque de René Dumont, qui est une conjonction entre la professionnalisation du métier politique, la multiplication des formations au métier politique. On a tout un tas de masters maintenant au métier politique, là, par exemple.
Et là, on s'éloigne des petits René Dumont dont parlait à l'instant Alain Lipietz. On parlera d'héritage demain. Merci Vanessa Jérôme. Merci Alain Lipietz. Demain, on parlera des héritages. Comment hériter de René Dumont? Ce sera avec Marine Tondelier, qui est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, avec la politiste Cécile Blatrix et avec Myriam Makiewicz de Agronome et Vétérinaire sans frontières.